Bon, avec Ray, que l'on salue d'abord. Bonne journée, mon ami.
Bon matin, messieurs.
Salut.
On a parlé de ce boycott par des joueurs, par certaines équipes même, pas juste les joueurs, la direction des équipes, suite à ces événements au Wisconsin où un jeune homme, un Afro-Américain, a reçu des balles dans le dos. On a appris dans les dernières heures que possiblement il avait un couteau. En tout cas, on a trouvé un couteau dans la voiture. Mais il se trouve donc à l'hôpital, soins intensifs, paralysé. Et ce mouvement de boycott a pris pas mal d'ampleur. Et on se demande si c'est le début d'une vague, comment ça va évoluer. Quelle lecture, Ray, tu fais de tout ça?
Bien, la définition même de ce qui s'est passé hier, Paul, Alain, c'est une grève. Un boycott, là, c'est généralement parce qu'on veut faire mal financièrement à une institution, à une entreprise. Puis selon beaucoup d'experts légaux aux États-Unis, là, ce qui s'est produit hier, c'est une grève, un arrêt de travail organisé. Puis c'est historique, c'est ce que j'appelle une perturbation majeure, parce qu'on n'a jamais vu ça.
Mais plus souvent qu'autrement, avec le consentement des directions d'équipe aussi, là.
Oui, oui, mais évidemment, les propriétaires se sont ralliés rapidement. Puis il y a eu beaucoup de déclarations. Puis c'est ironique parce que, tu sais, on a parlé au départ, là, dans le cas de George Floyd, il y avait plusieurs propriétaires et des ligues. La NFL a donné 250 millions à la cause pour les communautés noires aux États-Unis. Michael Jordan en a donné 100 millions. Puis hier ou avant-hier, c'était Joseph Tsai, qui est le propriétaire des Nets de Brooklyn, justement dans la NBA, qui a donné 50 millions. On continue de mettre de l'argent. Le dossier, c'est pas de l'argent. C'est d'être capable de faire changer et d'influencer les institutions américaines, le système judiciaire, les gouverneurs, les maires, les shérifs, les autorités locales, puis évidemment le gouvernement fédéral. C'est là que les joueurs de la NBA et les autres, parce que je note aussi qu'il y a eu 3 matchs de la WNBA annulés, 5 matchs dans la MLS, 3 matchs du baseball majeur. Paul, ça n'a pas fini de cette espèce de mouvement là, en vague. Là.
Et Cincinnati, le tournoi aujourd'hui, là, on annule les matchs, on remet ça demain.
Oui, ouais. Puis Naomi Osaka, qui était la première individuelle en demi-finale, qui a décidé de ne pas se présenter, de ne pas jouer. Bon, on va voir ce que ça va redonner là, dans les prochaines heures. C'est une question d'heure. Les joueurs de la NBA se sont rencontrés à 20h hier soir, tous ensemble, avec les entraîneurs. Et ce qui est sorti de là, c'est qu'il y a 2 équipes qui ont dit « nous, on rentre chez nous ». Les Lakers et les Clippers, les 2 plus célèbres, à part les Raptors. Ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter, mais eux, ils sont contre l'idée de reprendre bientôt les activités. On va voir ce que ça va suivre. Ce matin, 11h, meeting des gouverneurs de la NBA à ce sujet, mais séparé d'un autre meeting des joueurs pour la suite des choses. Moi, personnellement, je pense que les matchs de la NBA vont être annulés aujourd'hui parce que les Raptors jouent aujourd'hui, puis eux ont été les premiers à mettre la puce à l'oreille à tout le monde par rapport à un boycott possible. Donc, je m'attends à ce qu'eux suivent dans cette veine-là. Et j'ai de la misère à imaginer un match de sport aujourd'hui. Et je suis un peu étonné que la Ligue nationale de hockey s'en soit sortie hier en jouant leurs 2 ou 3 matchs.
Est-ce que, je vais poser une question là, qui va peut-être choquer du monde, là, mais il n'y a pas beaucoup de Noirs qui jouent au hockey. Est-ce que tu penses que c'est une raison que ça leur passe, disons, je dirais pas 100 pieds par-dessus la tête, là, mais que ça les touche moins?
Je peux pas croire ça, Paul. Je peux pas croire qu'on n'est pas sensible, tout le monde, à ça. Je peux pas croire que c'est parce que la NBA est composée de joueurs noirs à 85% que c'est pour cette raison-là uniquement. Tu sais, je veux dire, il y a des Noirs dans la NHL, bien sûr. Il y en a dans tous les sports. Il y a des joueurs noirs au tennis. Naomi Osaka est minorité noire.
Mais tu sais, au golf, il n'y en a pas tellement non plus.
Il y a un gros tournoi qui débute aujourd'hui. Là. Penses-tu qu'ils vont boycotter ça?
Oui, je pense que oui. Je pense que c'est...
Les joueurs de golf, là, c'est pas les plus militants, ça. Là,
non,
là.
Non, t'as raison. Puis c'est un tournoi de série, là, c'est la FedEx Cup. C'est gros, là, c'est le BMW Championship à Chicago. Paul, Alain, là, moi, j'ai de la misère à voir comment on peut pas s'éloigner. Comment on peut rester insensible? Comment, parce que notre effectif est composé de joueurs blancs, comment on ne peut pas, nous aussi, soutenir la cause en solidarité? C'est pas un problème lié à la NBA uniquement, là. C'est un problème dans les villes, dans les villages, dans les rues aux États-Unis, de brutalité puis d'injustice.
C'est sûr. Mais je me demande toujours, tu dis ça va continuer aujourd'hui, probablement ça va prendre de l'ampleur, mais est-ce que tu penses qu'il y a des saisons de terminer, là, si on voulait jouer encore, je sais pas, moi jusqu'au mois d'octobre, on va refermer les livres et on va quitter?
Ben, ça, c'est la question. Je vais faire un recul. Là. Les joueurs ont fait un sacrifice déjà de se présenter dans les bulles, tous les sports confondus, là. Le soccer de la MLS, le hockey et le basketball. Il y avait un sacrifice, une bulle dorée qu'on peut appeler ça, une prison dorée, on peut appeler ce qu'on veut. Là, ils sont bien traités, mais c'est quand même de l'isolement total. Ça n'a pas marché. Ils ont mis des slogans sur leur T-shirt, sur leur chandail, ça n'a pas marché. Ils ont mis des logos sur le terrain de jeu, ça n'a pas marché. Ils ont fait des campagnes publicitaires, puis on n'est pas à l'écoute. Fait que qu'est-ce qu'ils disent? Ben, si vous ne nous écoutez pas, vous ne nous verrez pas. Ça, c'était littéralement la déclaration d'un joueur hier des Lakers, J.R. Smith. Les joueurs ont une influence publique, Paul. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est l'influence économique. Et ce qu'ils n'ont pas, c'est la capacité d'affecter les plateaux gouvernementaux, les paliers. Ils ne sont pas capables directement de faire bouger les choses comme un propriétaire peut le faire. Tu sais, aujourd'hui, on annonce que Jeff Bezos est rendu à 200 millions,
200 milliards.
Milliards en valeur personnelle. Jeff Bezos, évidemment, le grand leader d'Amazon, il y a quelque part, lui, il s'est inséré dans l'équation avec le Kraken de Seattle. Il a mis son entreprise comme nom de l'amphithéâtre. Ça ne se rappellera pas l'Amazon Arena, ça va être Climate Pledge Arena, mais c'est Amazon qui est derrière ça. Jeff Bezos est capable de faire bouger des choses. David Stern le faisait à l'époque comme influenceur au niveau politique pour aider le sport, aider les athlètes, aider la société. Fait que c'est ça que ça va prendre aujourd'hui. Ça va prendre des gestes qui vont connecter avec le gouvernement. Ironiquement, on est pogné d'une pandémie, puis on est en pleine campagne républicaine avec la convention. T'sais, c'est un drôle de timing tout ce qui arrive.
Mais c'est assez ironique, par exemple, de constater que ça survient 4 ans, jour pour jour, après le début de la protestation de Colin Kaepernick, qui était demeuré assis au banc des joueurs pendant l'hymne national, avant un match hors concours des 49ers. Hier, Pete Carroll a dit « Il faudrait peut-être penser à réhabiliter et à pardonner à Colin Kaepernick et à poser un genou au sol durant l'hymne national lors de tous les matchs de la NFL cette saison. »
Tout à fait. Je pense que Colin Kaepernick, là, j'en ai parlé souvent puis je vais le répéter, là, ça c'est une injustice. Lui, il savait, là, il a vu avant les autres, il a été visionnaire. On va se rappeler de Colin Kaepernick dans les livres d'histoire dans 25 ans comme Rosa Parks. Celle qui a décidé de ne pas laisser son siège selon les ordres du chauffeur d'autobus en Alabama dans les années 50. Ça, là, c'est Colin Kaepernick, on a beau dire ce qu'on veut à son sujet, puis qu'il s'est mal pris, mauvaise plateforme, tout ça, là. Il y a une chose qui est claire, il l'a vu avant les autres, puis on l'a ridiculisé un peu. Aujourd'hui, on est obligé de respecter que ça se poursuit malgré tout ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des voix qui se font entendre de façon cinglante, puis c'est pas que les joueurs de la NBA réagissent de cette façon-là. Écoute, ils sont prêts à quand même rentrer chez eux en pleine série, les Lakers et les Clippers, Paul, sont les deux équipes les plus proches de gagner un titre avec les Raptors. Ils sont prêts à mettre ça de côté au détriment de leur succès personnel pour la cause. C'est très important ce qui se passe. On va voir les développements aujourd'hui.
Merci, Ray. Bonne journée. Ça arrive au moment, sais-tu quoi, en plus? Je regardais hier, je pense qu'il y a un État, je pense que, je vous le dis de mémoire, est-ce que le Missouri, le Mississippi, je m'en souviens pas exactement, là, mais qui vient d'autoriser les gens. Tu peux donner une arme à feu à un enfant, puis t'as aucun problème. Tu n'as pas besoin de consentement des parents. T'sais, ton neveu, mettons, okay, il y a
tu achètes ça en cadeau, là?
Ouais, tu lui donnes une arme à feu, puis c'est tout à fait légal.
Bon. Mais, tu sais, c'est un peu ça, la source. Cette culture de l'arme à feu aux États-Unis.
Avec les milices, là, qui se promènent
les milices, dans les rues. Puis jouent au cow-boy, puis on tire sur le premier venu. Hey, le petit gars, là, qui va être accusé des deux meurtres.
Il a 17 ans, là.
17 ans. Puis là, je regardais des images, là. Lui, il était élevé là-dedans, la culture de l'arme à feu. Puis je pense qu'il a eu son premier gun à 10 ans. Puis c'est la grande fierté de la famille, ça, là.
Merci. 8h30. Un accrochage à quel endroit, monsieur?